Vous allez entendre dans cette cassette les chapitres 1 à 11 de l'Évangile de Luc. Une deuxième cassette contient les chapitres 12 à 24 du même Évangile. La traduction utilisée pour cet enregistrement est celle du Nouveau Testament en français courant, publiée par les sociétés bibliques francophones sous le titre « Bonne nouvelle aujourd'hui ». L'Évangile de Luc est lu ici par Yves Poulain.
L'Évangile de Luc. Chapitre 1.
Excellence. Plusieurs personnes ont essayé d'écrire le récit des événements qui se sont passés parmi nous. Ils ont rapporté les faits tels que nous les ont racontés ceux qui les ont vus dès le commencement et qui ont été chargés d'annoncer la parole de Dieu. Et maintenant, à mon tour, je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début et il m'a semblé bon d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme s'appelait Élisabeth et était une descendante d'Aaron le grand prêtre. Ils étaient tous deux justes devant Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth ne pouvait en avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et la crainte le saisit. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommeras Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson fermentée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le moment de sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il s'avancera lui-même devant Dieu, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants et ramener les désobéissants à la sagesse des hommes justes. Il formera un peuple prêt pour le Seigneur. » Mais Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux, et ma femme aussi est âgée. » Et l'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui se réaliseront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu vas devenir muet et tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements se produiront. » Pendant ce temps, les fidèles attendaient Zacharie et s'étonnaient qu'il reste si longtemps à l'intérieur du sanctuaire. Mais quand il sortit, il ne put leur parler et les gens comprirent qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand Zacharie eut achevé la période où il devait servir dans le temple, il retourna chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte et elle se tint cachée pendant 5 mois. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Il a bien voulu me délivrer maintenant de ce qui causait ma honte devant les hommes. » Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph, qui était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, « Je te salue, toi à qui Dieu a accordé une grâce particulière. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Tu vas devenir enceinte, et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand, et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre, et il régnera sur le peuple d'Israël pour toujours. son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, bien qu'elle soit âgée. On disait qu'elle ne pouvait avoir d'enfant, et elle en est maintenant à son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. À cette même époque, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant remua au-dedans d'elle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ? Car vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru que ce qui t'a été annoncé de la part du Seigneur s'accomplira. » Marie dit alors, « Mon âme loue la grandeur du Seigneur, et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant, les humains de tous les temps me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Son nom est saint. Il aura pitié dans tous les temps de ceux qui le craignent avec respect. Il a accompli des œuvres puissantes par la force de son bras. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé des rois de leur trône, et il a donné une place élevée aux humbles. Il a accordé des biens en abondance à ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches, les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. » Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Le moment arriva où Élisabeth devait avoir son enfant et elle mit au monde un fils. Les voisins d'Élisabeth et les membres de sa parenté apprirent que le Seigneur lui avait donné cette grande preuve de sa bonté et ils s'en réjouissaient avec elle. Quand l'enfant eut 1 semaine, ils vinrent pour le circoncire. Ils voulaient lui donner le nom de son père, Zacharie. Mais sa mère déclara, « Non, il s'appellera Jean. » « Mais il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom, lui dirent-ils. » Alors ils interrogèrent par geste le père pour savoir comment il voulait qu'on nomme son enfant. Zacharie demanda une tablette à écrire, et il y écrivit ces mots, « Jean est son nom ». Ils s'en étonnèrent tous. Aussitôt, Zacharie put de nouveau parler. Il se mit à louer Dieu à haute voix. Alors tous les voisins furent saisis de crainte, et dans toute la région montagneuse de Judée, l'on se racontait ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler se mettaient à y réfléchir et se demandaient « Que deviendra donc ce petit enfant ?» La puissance du Seigneur était en effet réellement avec lui. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces mots « Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il a porté son attention sur son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous, parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui nous haïssent, qu'il manifesterait sa pitié à nos ancêtres et se souviendrait de sa sainte alliance. Car Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir de nos ennemis et de nous permettre de le servir sans peur pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, mon enfant, tu seras appelé prophète du Dieu Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il le sauvera en pardonnant ses péchés. Car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut semblable à celle du soleil levant, pour éclairer ceux qui se trouvent dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il demeura dans des lieux déserts jusqu'au jour où il se présenta publiquement devant le peuple d'Israël.
Chapitre 2.
En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de faire le recensement de tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tous les gens allaient se faire inscrire en se rendant chacun dans sa propre ville. Joseph partit de la ville de Nazareth, en Galilée, pour aller en Judée, dans la ville appelée Bethléem, où est né le roi David, parce qu'il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire inscrire avec Marie, sa fiancée. Elle attendait un enfant, et pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour arriva où son bébé devait naître. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison où logeaient les voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit sur eux. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un bébé enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant « La gloire est à Dieu dans les cieux très hauts, et sa paix est donnée sur la terre aux hommes qu'il aime. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem, il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Mais Marie gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé. Une semaine après, le moment vint de circoncire l'enfant. On lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte. Puis le moment vint pour Joseph et Marie d'accomplir la cérémonie de purification qu'ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent alors l'enfant dans la ville de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il est écrit dans la loi de Dieu « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Ils offrirent aussi le sacrifice que demande la loi de Dieu, une paire de tourterelles ou deux jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était droit, il respectait Dieu et attendait celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Dirigé par le Saint-Esprit, Siméon alla dans le temple. Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d'accomplir pour lui ce que demandait la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, ta promesse s'est réalisée. Tu peux laisser ton serviteur mourir en paix. Car j'ai vu de mes propres yeux ton salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde » et comblera de gloire Israël, ton peuple. » Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, la mère de Jésus, « Dieu a choisi cet enfant pour causer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les hommes s'opposeront, et il fera ainsi apparaître en pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, femme, la douleur te transpercera l'âme comme une épée. » Il y avait aussi une prophétesse, appelée Anne, qui était la fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Elle avait vécu 7 ans avec le mari qu'elle avait épousé dans sa jeunesse, puis, demeurée veuve, elle était parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu jour et nuit. Elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l'enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem. Quand les parents de Jésus eurent achevé de faire tout ce que demandait la loi du Seigneur, ils retournèrent avec lui en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était avec lui. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus eut 12 ans, ils se rendirent à la fête comme d'habitude. Quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus se trouvait avec leurs compagnons de voyage, et firent une journée de marche, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvèrent pas, de sorte qu'ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, ils le trouvèrent dans le temple. Il était assis au milieu des maîtres juifs, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents le virent, ils furent très étonnés et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répondit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Jésus retourna alors avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait dans son cœur le souvenir de tous ces événements. Et Jésus grandissait de corps, progressait en sagesse, et se rendait agréable à Dieu et aux hommes.
Chapitre 3.
C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de Judée. Hérode régnait sur la Galilée et son frère Philippe sur le territoire de l'Iturée et de la Traconite. Lysanias régnait sur l'Abilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. La parole de Dieu se fit alors entendre à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région voisine de la rivière du Jourdain. Il lançait cet appel « Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés ». Ainsi arriva ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront aplanies. Les courbes de la route seront redressées, les chemins en mauvais état seront égalisés. Et tout être humain verra comment Dieu nous sauve. Des foules venaient à Jean pour qu'il les baptise. Il leur disait « Bande de serpents, qui vous a enseigné que vous pourriez échapper à la colère divine qui va venir ? Accomplissez des actes qui montrent que vous avez changé de vie, et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Abraham est notre ancêtre ». Car je vous déclare que Dieu peut utiliser ces pierres pour en faire des descendants d'Abraham. La hache est déjà prête à couper les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. » Les foules lui demandèrent alors, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Celui qui a 2 chemises doit en donner une à celui qui n'en a pas, et celui qui a de la nourriture doit la partager. » Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites pas payer plus que ce qui est légal. » Des soldats lui demandèrent également, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit, « Ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. » Le peuple attendait plein d'espoir. Chacun pensait que Jean était peut-être le Messie. Jean leur dit alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais quelqu'un de plus puissant que moi va venir. » Je ne suis pas même assez bon pour délier la courroie de ses sandales. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il tient en sa main la pelle à vanner pour séparer le grain de la paille. Il amassera le grain dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. c'est en leur adressant beaucoup d'autres appels encore que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple. Cependant, Jean fit des reproches au gouverneur Hérode parce qu'il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère, et parce qu'il avait commis beaucoup d'autres mauvaises actions. Alors Hérode en commit une de plus, il fit mettre Jean en prison. Après que tout le peuple eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, je mets en toi toute ma joie. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son œuvre. Il était, à ce que l'on pensait, fils de Joseph qui était fils d'Élie. En remontant les générations, ses ancêtres étaient Matthat, Lévi, Melki, Janaï, Joseph, Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagaï, Maat, Matathias, Semein, Josek, Joda, Johanan, Reza, Zorobabel, Salatiel, Neri, Melki, Addi, Kozam, Elmadam, Er, Jésus, Eliezer, Jorim, Matat, Lévi, Siméon, Judas, Joseph, Jonam, Eliakim, Meléa, Mena, Matata, Nathan, David, Isaïe, Jobed, Boaz, Salah, Naasson, Aminadab, Admin, Arni, Ezrom, Phares, Judas, Jacob, Isaac, Abraham, Tara, Nakor, Seruk, Rago, Falek, Héber, Salah, Kainam, Arphaxad, Sem, Noé, Lamech, Matouzala, Enoch, Jared, Maléléel, Cainan, Enos, Seth et Adam, fils de Dieu.
Chapitre 4.
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis, et je peux le donner à qui je veux. » Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et sers-le lui seul. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que tu ne te blesses pas le pied contre une pierre. Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. On se mit à parler de lui dans toute cette région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le rouleau de ce livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où se manifestera la faveur du Seigneur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Toutes les personnes présentes dans la synagogue fixaient les yeux sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Ce passage de l'Écriture s'est réalisé aujourd'hui au moment même où vous l'avez entendu lire. » Tous exprimaient leur admiration à l'égard de Jésus et s'étonnaient des paroles pleines d'attrait qu'il prononçait. « N'est-ce pas le fils de Joseph » disait-il. Jésus leur répliqua, « Vous allez certainement me citer ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. Vous me direz aussi, nous avons appris tout ce que tu as fait à Capernaum, accompli les mêmes choses ici, dans ta propre ville. Puis il ajouta, je vous le déclare, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa ville natale. Je vous l'affirme, il est certain qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi et qu'une grande famine s'étendit sur tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta dans la région de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman le Syrien. Tous dans la synagogue furent remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces mots. Ils se levèrent, l'entraînèrent hors de la ville, et le menèrent au sommet de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Jésus se rendit alors à Capernaum, ville de Galilée, et il y enseignait les gens le jour du sabbat. Ils étaient très étonnés de sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait en lui un mauvais démon. Il se mit à crier très fort, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais bien qui tu es, le Saint envoyé de Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit et lui donna cet ordre, « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit mauvais jeta l'homme à terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'étonnement et ils se disaient les uns aux autres, « Quel genre de parole est-ce là ? » Cet homme commande avec autorité et puissance aux esprits mauvais et ils sortent. Et l'on parlait de Jésus partout dans cette région. Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre, et l'on demanda à Jésus de la guérir. Il se pencha sur elle, et d'un ton sévère donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta, elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des esprits mauvais sortirent aussi de beaucoup de malades en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus leur adressait des paroles sévères et les empêchait de parler parce qu'ils savaient, eux, qu'il était le Messie. Dès que le jour parut, Jésus sortit de la ville et s'en alla vers un endroit isolé. Une foule de gens se mirent à le chercher. Quand ils l'eurent rejoint, ils voulurent le retenir et l'empêcher de les quitter. Mais Jésus leur dit, « Je dois annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes aussi, car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de Judée.
Chapitre 5.
Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques sur la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques, qui appartenait à Simon, et le pria de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance la barque à un endroit où l'eau est profonde, puis toi et tes compagnons jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc, et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se rompre. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba à genoux devant Jésus et dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Simon était en effet saisi de crainte, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, dès maintenant ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre, laissèrent tout et suivirent Jésus. Comme Jésus se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui, le visage contre terre, et le pria en ces mots, « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre quitta cet homme. Jésus lui donna cet ordre, « Ne parle de cela à personne, mais va montrer au prêtre comment tu es. » Puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Des foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il priait. Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des pharisiens et des maîtres de la loi étaient assis près de lui. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades. Les gens arrivèrent, portant sur un lit un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles, et le descendirent sur son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est cet homme qui parle ainsi contre Dieu? Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. » Jésus connut leurs pensées et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées? Est-il plus facile de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il adressa alors ces mots au paralytique, « Je te le dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit le lit sur lequel il avait été couché, et s'en alla chez lui en louant Dieu. Tous furent frappés d'étonnement. Il louait Dieu, rempli de crainte, et disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses merveilleuses. » Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts nommé Lévi, assis à son bureau. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva, laissa tout et le suivit. Puis Lévi lui offrit un grand repas dans sa maison. Un grand nombre de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les maîtres de la loi qui étaient de leur parti s'indignaient et ils dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus leur répondit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de docteurs. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des gens respectables, mais des gens de mauvaise réputation pour qu'ils changent de vie. » Des personnes dirent à Jésus, « Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières, de même que les disciples des pharisiens, mais tes disciples, eux, mangent et boivent. » Jésus leur répondit, « Pensez-vous pouvoir obliger les invités d'une noce à se passer de manger pendant que l'époux est avec eux ? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Quand ces jours seront là, alors ils jeûneront. » Jésus leur dit aussi cette parabole. « Personne ne déchire un morceau d'un vêtement neuf pour réparer un vieux vêtement. Sinon le vêtement neuf est déchiré et la pièce d'étoffe neuve ne s'accorde pas avec le vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon le vin nouveau fait éclater les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais non, il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne ne veut du vin nouveau après en avoir bu du vieux. On dit en effet, le vieux est meilleur. »
Chapitre 6.
Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples cueillaient des épis de blé, les frottaient dans leurs mains et en mangeaient les grains. quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat ?»« N'avez-vous pas lu, leur répondit Jésus, ce que fit David un jour où lui-même et ses gens avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains offerts à Dieu, en mangea et en donna à ses gens, bien que notre loi n'autorise que les prêtres seuls à en manger. » Jésus leur dit encore, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans une synagogue et se mit à enseigner. Un homme s'y trouvait, qui avait la main droite desséchée. Les maîtres de la loi et les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait guérir quelqu'un le jour du sabbat, car ils voulaient avoir une raison pour l'accuser de mal agir. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit alors à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi là, devant tout le monde. » L'homme se leva et se tint là. Puis Jésus leur dit, « Je vous le demande. Que permet notre loi ? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal ? De sauver la vie d'un homme ou de la détruire ?» Il les regarda tous et dit ensuite à l'homme, « Avance ta main. » Il le fit et sa main redevint saine. Mais les autres furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient faire à Jésus. En ce temps-là, Jésus monta sur une colline pour prier et y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, qu'il nomma apôtres, Simon, auquel il donna aussi le nom de Pierre, et son frère André, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques le fils d'Alphée et Simon, appelé le nationaliste, Judas le fils de Jacques et Judas Iscariote, celui qui devint un traître. Jésus descendit de la colline avec eux et s'arrêta en un endroit plat où se trouvait un grand nombre de ses disciples. Il y avait aussi là une foule immense de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des villes de la côte, Tyr et Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits mauvais étaient aussi guéris. Tout le monde cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Jésus regarda alors ses disciples et dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous si les hommes vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et vous méprisent comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez déjà eu votre bonheur. Malheur à vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans la tristesse et vous pleurerez. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à tout homme qui te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Ne jugez pas les autres, et Dieu ne vous jugera pas, Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure que vous employez pour les autres. Jésus leur dit encore une parabole. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est plus grand que son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, « Mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil », toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Un bon arbre ne produit pas du mauvais fruit, et un mauvais arbre ne produit pas du bon fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des buissons d'épines, et l'on ne récolte pas du raisin sur des ronces. L'homme bon tire du bien du bon trésor que contient son cœur. L'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Car la bouche de l'homme exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui s'est mis à bâtir une maison. Il a creusé profondément la terre et a posé les fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique ressemble à un homme qui a bâti une maison directement sur le sol, sans fondation. Quand les eaux de la rivière se sont jetées contre cette maison, elle s'est aussitôt écroulée, elle a été complètement détruite.
Chapitre 7.
Quand Jésus eut fini d'adresser toutes ses paroles au peuple, il se rendit à Capernaum. Là, un capitaine romain avait un serviteur qui lui était très cher. Ce serviteur était malade et prêt de mourir. Quand le capitaine entendit parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et se mirent à le prier avec insistance en disant « Cet homme mérite que tu lui accordes ton aide. Il aime notre peuple et c'est lui qui a fait bâtir notre synagogue. » Alors Jésus s'en alla avec eux. Il n'était pas loin de la maison quand le capitaine envoya des amis pour lui dire « Maître, ne te dérange pas. Je ne mérite pas que tu entres dans ma maison. C'est pour cela que je ne me suis pas jugé digne d'aller en personne vers toi. Mais donne seulement un ordre, et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Va !» et il va. Je dis à un autre « Viens !» et il vient. Et à mon serviteur « « Fais ceci, et il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il admira le capitaine. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, je n'ai jamais trouvé une telle foi, non pas même en Israël. » Les envoyés retournèrent dans la maison du capitaine et y trouvèrent le serviteur en bonne santé. Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Au moment où il approchait de la porte de la ville, on menait un mort au cimetière. C'était le fils unique d'une femme qui était veuve. Un grand nombre d'habitants de la ville se trouvaient avec elle. Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Puis il s'avança et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent. Jésus dit « « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils louaient Dieu en disant, « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et aussi, Dieu est venu secourir son peuple. Et dans toute la Judée et ses environs, on apprit ce que Jésus avait fait. Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela deux d'entre eux et les envoya au Seigneur pour lui demander « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, ils lui dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander « Es-tu celui dont nous savons qu'il doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leurs maladies, de leurs maux. Il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés de Jean, « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont rendus purs, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas sa foi en moi. » Quand les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à parler de Jean aux foules. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? » disait-il. « Un roseau agité par le vent ? » ?»« Non. Alors qu'êtes-vous allé voir ? » ?»« Un homme vêtu d'habits magnifiques. » ?»« Mais ceux qui portent de riches habits et vivent dans le luxe se trouvent dans les palais des rois. » »« Qu'êtes-vous donc allé voir ? » ?»« Un prophète. » »« Oui, je vous le dis, et même bien plus qu'un prophète. » Car Jean est celui dont l'Écriture affirme « Voici, j'envoie mon messager devant toi, dit Dieu, pour t'ouvrir le chemin. » « Je vous le déclare, ajouta Jésus, il n'est jamais né personne de plus grand que Jean. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Tout le peuple et les collecteurs d'impôts l'écoutaient. Ils avaient reconnu que Dieu est juste et s'étaient fait baptiser par Jean. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi avaient rejeté ce que Dieu voulait pour eux et avaient refusé de se faire baptiser par Jean. Jésus dit encore, « À qui puis-je comparer les hommes d'aujourd'hui ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, dont les uns crient aux autres, « Nous vous avons joué un air de danse sur la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil, et vous n'avez pas pleuré. » Car Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites, « Il a en lui un esprit mauvais. » Le Fils de l'homme est venu, il mange et boit, et vous dites, « Voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est ami des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise réputation. » Mais la sagesse de Dieu est reconnue comme juste par tous ceux qui l'acceptent. Un pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et se mit à table. Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit que Jésus était à table chez le pharisien, elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière Jésus à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une femme de mauvaise réputation. » Jésus prit alors la parole et dit au pharisien, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître, » répondit Simon. Et Jésus dit, « Deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait le payer, il leur supprima leur dette à tous deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? » Simon lui répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. »« Tu as raison, lui dit Jésus. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant. Mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. Jésus dit alors à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix.
Chapitre 8.
Ensuite, Jésus alla dans les villes et les villages où il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries de maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont 7 esprits mauvais avaient été chassés, Jeanne, femme de Cusa, un administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. De chaque ville, des gens venaient à Jésus. Comme une grande foule s'assemblait, il dit cette parabole. Un homme sortit pour semer son grain. Comme il répandait la semence dans son champ, une partie des grains tomba le long du chemin. On marcha dessus, et les oiseaux les mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Dès que les plantes poussèrent, elles se desséchèrent parce qu'elles manquaient d'humidité. Une autre partie tomba parmi des plantes épineuses qui poussèrent en même temps que les bonnes plantes et les étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre. Les plantes poussèrent et donnèrent du fruit, elles produisirent 100 grains chacune. Et Jésus ajouta, « Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre. » Les disciples de Jésus lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur répondit, « Vous avez reçu, vous, la connaissance des secrets du royaume de Dieu. Mais aux autres gens, ils sont présentés sous forme de paraboles, afin que, selon ce qui est écrit, ils puissent regarder mais sans voir, ils puissent entendre mais sans comprendre. » Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Certains hommes sont semblables au bord du chemin où tombe le grain. Ils entendent, mais le diable arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. D'autres ressemblent à un sol pierreux. Ils entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner. Ils ne croient qu'un instant, et ils abandonnent la foi au moment où survient l'épreuve. La semence qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent. Mais ils se laissent étouffer en chemin par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de fruits mûrs. La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et portent ainsi des fruits. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un seau ou pour la mettre sous un lit. Au contraire, on la place sur le porte-lampe afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tout ce qui est caché sera rendu visible, et tout ce qui est secret sera connu et mis en pleine lumière. Faites attention à la manière dont vous écoutez, car celui qui a quelque chose recevra davantage, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il pense avoir. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On l'annonça à Jésus, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te voir. » Mais Jésus dit à tous, « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. » Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit, « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Soudain, un vent violent se mit à souffler sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus, le réveillèrent et lui dirent, « Maître, maître, nous allons mourir !» Jésus se réveilla et parla sévèrement au vent et aux grandes vagues qui s'apaisèrent. Il y eut un grand calme. Jésus dit aux disciples, « Où est votre foi ?» Mais ils avaient peur, étaient remplis d'étonnement et se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? Il donne des ordres même au vent et à l'eau et ils lui obéissent. » Ils abordèrent dans le territoire des Gergéséniens, qui est de l'autre côté du lac en face de la Galilée. Comme Jésus descendait à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Cet homme avait en lui des esprits mauvais. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais vivait parmi les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, tomba à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en prie, ne me punis pas. » Il dit cela parce que Jésus ordonnait à l'esprit mauvais de sortir de lui. Cet esprit s'était emparé de lui bien des fois. On attachait alors les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder,
mais il rompait ses liens, et l'esprit l'entraînait vers les lieux déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Multitude, » répondit-il. En effet, de nombreux esprits mauvais étaient entrés en lui, et ces esprits priaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture sur la colline. Les esprits demandèrent à Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Alors, les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau se précipita du haut de la pente dans le lac et s'y noya. Quand les hommes qui gardaient les porcs virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme que les esprits mauvais avaient quitté. Il était assis aux pieds de Jésus, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment l'homme aux esprits mauvais avait été guéri. Alors toute la population du territoire des Gergéséniens demanda à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils avaient très peur. Jésus monta dans la barque pour partir. L'homme que les esprits mauvais avaient quitté priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en alla donc et annonça dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Au moment où Jésus revint de l'autre côté du lac, la foule l'accueillit car tous l'attendaient. Un homme appelé Jaïrus arriva alors. Il était chef de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le pria de venir chez lui parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui était en train de mourir. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang cessa. Jésus demanda, « Qui m'a touché ?» Tous niaient l'avoir fait, et Pierre dit, « Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef Jaïrus et dit à celui-ci, « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jaïrus, « N'aie pas peur, crois seulement et elle guérira. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Mais Jésus la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé.
Chapitre 9.
Jésus réunit les 12 disciples, et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien avec vous pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 chemises chacun. Partout où l'on vous accueillera, restez dans la même maison jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Partout où les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville. » Et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. » Les disciples partirent. Ils passaient dans tous les villages, annonçaient la bonne nouvelle et guérissaient partout les malades. Cependant, Hérode, le gouverneur, entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait qu'en penser, car certaines personnes disaient « Jean-Baptiste est revenu à la vie ». D'autres disaient « C'est Élie qui est apparu ». D'autres encore « L'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie ». Quant à Hérode, il disait « J'ai fait couper la tête à Jean ». Qui est donc cet homme dont j'entends rapporter toutes ces choses? Et il cherchait à voir Jésus. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les emmena et se retira avec eux seuls vers une ville appelée Bethsaïda. Mais les foules l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, leur parla du royaume de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et les fermes des environs pour y trouver de la nourriture et un logement, car nous sommes ici dans un endroit isolé. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, » répondirent-ils. « Voudrais-tu peut-être que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde ?» Il y avait là, en effet, environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Les disciples obéirent et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et remercia Dieu pour ses aliments. Il les partagea et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et eurent assez de nourriture. On emporta 12 corbeilles pleines des morceaux qu'ils eurent en trop. Un jour que Jésus priait seul, ses disciples le rejoignirent. Il leur demanda « Que disent les foules à mon sujet ?» Ils répondirent « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. » « Mais vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Tu es le Messie de Dieu. » Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne, et il ajouta « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Il sera mis à mort, et le 3e jour, il ressuscitera. » Puis il dit à tous « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Car l'homme qui veut sauver sa vie la perdra. » Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd lui-même ou va à sa destruction? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, alors le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans la gloire du Père et des saints anges. Je vous le déclare, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Environ une semaine après qu'il eut ainsi parlé, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient au milieu d'une gloire céleste. Ils parlaient avec Jésus de la façon dont il allait accomplir sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit « Maître, c'est bien que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, un nuage apparut et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant ce nuage les recouvrir. Du nuage, une voix se fit entendre « Celui-ci est mon Fils que j'ai choisi. Écoutez-le. » Après que la voix eut parlé, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ce temps-là, ne racontèrent rien à personne de ce qu'ils avaient vu. Le jour suivant, ils descendirent de la montagne et une grande foule vint à la rencontre de Jésus. De la foule, un homme se mit à crier « « Maître, je t'en prie, jette un regard sur mon fils unique. » Un esprit le saisit, le fait crier subitement, le secoue avec violence et le fait écumer de la bouche. Il le maltraite,
et ne le quitte que difficilement. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus répondit, « Gens incrédules et mauvais, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter ?» Et il ajouta, « Amène ton fils ici. » Comme l'enfant approchait, l'esprit le jeta à terre et le secoua rudement. Mais Jésus parla sévèrement à l'esprit mauvais, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous étaient remplis d'étonnement devant la grandeur de la puissance de Dieu. Comme chacun s'étonnait encore de tout ce que Jésus faisait, il dit à ses disciples, « Retenez bien ce que je vous déclare maintenant. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole. Son sens leur avait été caché afin qu'ils ne puissent le comprendre, et ils avaient peur d'interroger Jésus à ce sujet. Les disciples se mirent à discuter pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus se rendit compte de ce qu'ils pensaient. Il prit alors un enfant, le plaça auprès de lui et leur dit, « Celui qui reçoit cet enfant à cause de moi, me reçoit à moi-même, et celui qui me reçoit, reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est lui qui est le plus grand. » Jean prit la parole. « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'est pas avec nous. » Mais Jésus lui répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Lorsqu'approchèrent les jours où Jésus devait être enlevé au ciel, il décida fermement de se rendre à Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Après être partis, ceux-ci entrèrent dans un village de Samarie pour lui préparer tout le nécessaire. Mais les habitants ne voulurent pas le recevoir, parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Quand les disciples, Jacques et Jean, virent cela, ils dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions au feu de descendre du ciel et de les détruire ?» Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches. Et ils allèrent dans un autre village. Comme ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, » lui dit Jésus. « Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher pour se reposer. » Il dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais l'homme répondit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » « Laisse les morts enterrer leurs morts, » lui répliqua Jésus, « et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore lui dit, « Je te suivrai, maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, est inutilisable pour le royaume de Dieu. »
Chapitre 10.
Après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes, et les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur dit, « Il y a une grande moisson, mais peu d'ouvriers pour la rentrée. Priez donc le propriétaire de la moisson d'envoyer davantage d'ouvriers pour rentrer sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quelqu'un. Quand vous entrerez dans une maison, dites d'abord « Paix à cette maison ». Si un homme de paix habite là, votre salut de paix reposera sur lui. Sinon, retirez votre salut de paix. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez ce que l'on vous y donnera, car l'ouvrier a droit à son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Quand vous entrerez dans une ville et que l'on vous recevra, mangez ce que l'on vous présentera. Guérissez les malades de cette ville, et dites à ses habitants, « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Mais quand vous entrerez dans une ville, et que l'on ne vous recevra pas, sortez dans les rues et dites, « Nous secouons contre vous même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Pourtant, sachez bien ceci, le royaume de Dieu s'est approché de vous. »
Je vous le déclare, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Sodome que pour cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient assis, auraient revêtu des sacs et se seraient couverts de cendres pour montrer qu'ils voulaient changer de vie. C'est pourquoi, au jour du jugement, la punition sera moins dure pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu t'élèveras jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'en enfer. Il dit encore à ses disciples, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent, « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit, « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, il en est ainsi parce qu'il t'a plu de le vouloir. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. » Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit, à eux seuls, « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Un maître de la loi intervint alors. Pour tendre un piège à Jésus, il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?»« Qu'est-il écrit dans notre loi ?» lui répliqua Jésus. « Comment la comprends-tu quand tu la lis ?» L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. » Et encore, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait se donner raison. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui arrachèrent ses vêtements pour le voler, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa en se tenant de l'autre côté de la route. De même, un lévite arriva à cet endroit, s'avança, vit l'homme et passa en se tenant de l'autre côté de la route. Mais un samaritain qui voyageait par ce même chemin arriva près de lui. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'approcha de lui, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?»« Celui qui a été bon pour lui, » répondit le maître de la loi. Jésus lui dit alors, « Va et fais de même. » Comme Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur
et écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très occupée aux nombreux travaux du ménage. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. »
Chapitre 11.
Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur déclara, « Quand vous priez, dites, « Père, que la sainteté de ton nom soit reconnue, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour la nourriture nécessaire. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne nous conduis pas dans la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison, « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme. Il ne se lèvera peut-être pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, mais il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que, sans se gêner, son ami continue à demander. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre la porte à celui qui frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il à son fils un serpent alors qu'il lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison donc, le Père qui est au ciel, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un homme muet. Quand l'esprit mauvais sortit, le muet se mit à parler et les foules furent remplies d'étonnement. Mais quelques-uns dirent, « C'est Belzéboul, le chef des esprits mauvais, qui lui donne le pouvoir de chasser ses esprits. » D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, « Tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. » Si donc Satan est en lutte contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il continuer à exister? Vous dites en effet que je chasse les esprits mauvais parce que Belzéboul m'en donne le pouvoir. Si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui arrive et s'en rend vainqueur, il lui enlève les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des endroits desséchés en cherchant un lieu où se reposer. S'il n'en trouve pas, il se dit « Je vais retourner dans ma maison que j'ai quittée. » Il y retourne et trouve la maison balayée, bien arrangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils reviennent ensemble et s'installent dans les lieux. C'est ainsi que, finalement, l'état de cet homme est pire qu'au début. Jésus venait de parler ainsi quand une femme s'adressa à lui du milieu de la foule. « Heureuse est la femme qui t'a porté en elle et qui t'a allaité. » Mais Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et lui obéissent. » Comme les foules s'amassaient autour de Jésus, il se mit à dire, « Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Ils demandent un miracle qui soit le signe de l'intervention de Dieu. Mais aucun miracle ne leur sera accordé, si ce n'est celui de Jonas. » Car de même que Jonas fut un signe pour les habitants de Ninive, ainsi le Fils de l'homme sera un signe pour les gens d'aujourd'hui. Au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront, car les Ninivites ont changé de vie quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la cacher ou la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur le porte-lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Tes yeux sont comme la lampe de ton corps. Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais si tes yeux sont mauvais, alors ton corps est dans l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas obscurité. Si donc tout ton corps est éclairé, sans aucune partie dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque la lampe t'illumine de sa brillante clarté. Quand Jésus eut fini de parler, un pharisien l'invita à prendre un repas chez lui. Jésus entra et se mit à table. Le pharisien s'étonna lorsqu'il remarqua que Jésus ne s'était pas lavé avant le repas. Le Seigneur lui dit alors, « Voilà comme vous êtes, vous, les pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein du désir de voler et plein de méchanceté. Insensé que vous êtes, Dieu qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur ? Donnez donc plutôt aux pauvres ce qui est dans vos coupes et vos plats, et tout sera pur pour vous. Malheur à vous, pharisiens. Vous donnez à Dieu la dixième partie de plantes comme la menthe et la rue, ainsi que de toutes sortes de légumes, mais vous négligez la justice et l'amour pour Dieu. C'est pourtant là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger le reste. Malheur à vous, pharisiens. Vous aimez les sièges les plus en vue dans les synagogues, et vous aimez à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Malheur à vous! Vous êtes comme des tombeaux qu'on ne remarque pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Un des maîtres de la loi lui dit, « Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes, nous aussi. » « Malheur à vous aussi, maître de la loi, répondit Jésus. Vous mettez sur le dos des gens des fardeaux difficiles à porter, et vous ne les aidez pas même du bout d'un seul doigt à porter ces fardeaux. Malheur à vous! Vous construisez de beaux tombeaux pour les prophètes, ces prophètes que vos ancêtres ont tués. Vous montrez ainsi que vous approuvez les actes de vos ancêtres, car ils ont tué les prophètes, et vous, vous construisez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a déclaré, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront certains d'entre eux et en persécuteront d'autres. » Aussi les gens d'aujourd'hui seront-ils punis pour le meurtre de tous les prophètes qui ont été tués depuis la création du monde, depuis le meurtre d'Abel jusqu'au meurtre de Zacharie, qui fut tué entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous l'affirme, les gens d'aujourd'hui seront punis pour tous ces meurtres. Malheur à vous, maître de la loi! Vous avez pris la clé permettant d'ouvrir la porte du savoir, vous n'entrez pas vous-même, et vous empêchez d'entrer ceux qui le désirent. Quand Jésus eut quitté cet endroit, les maîtres de la loi et les pharisiens se mirent à lui manifester une violente fureur et à lui poser des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient des pièges pour essayer de le surprendre en train de dire quelque chose de faux.
Chapitre 12.
Pendant ce temps, les gens s'étaient assemblés par milliers au point qu'ils se marchaient sur les pieds les uns des autres. Jésus s'adressa d'abord à ses disciples. « Gardez-vous, leur dit-il, du levain des pharisiens, c'est-à-dire de leur hypocrisie. Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans l'obscurité sera entendu à la lumière du jour, et ce que vous aurez murmuré à l'oreille d'autrui, dans une chambre fermée, sera crié du haut des toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ensuite ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, C'est lui que vous devez craindre. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Cependant Dieu n'en oublie pas un seul, et même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Je vous le dis, tout homme qui déclarera publiquement m'appartenir, le Fils de l'homme aussi déclarera devant les anges de Dieu qu'il lui appartient. Mais celui qui aura affirmé publiquement ne pas me connaître, le Fils de l'homme aussi affirmera devant les anges de Dieu qu'il ne le connaît pas. Tout homme qui dira une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Quand on vous conduira pour être jugé dans les synagogues ou devant les dirigeants ou les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ou de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à ce moment-là ce que vous devez dire. Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. » Mon ami, lui répondit Jésus, « Qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Faites attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vraie vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Il leur dit alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se disait en lui-même, « Que vais-je faire? Je n'ai pas de place où garder toutes mes récoltes. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Je me dirai ensuite à moi-même, « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre, et alors pour qui sera tout ce que tu as gardé pour toi ?» Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Puis Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nourriture, et le corps plus important que les vêtements. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave à provision, ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait? Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Pourtant je vous le dis, même Salomon avec toute sa richesse n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée pour être brûlée au four. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Comme votre foi est petite. Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui cherchent continuellement tout cela. Mais vous, vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu, et Dieu vous accordera aussi le reste. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez aux pauvres l'argent ainsi obtenu. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas, amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent les y atteindre, ni les vers les détruire. Car là où sont vos richesses, là aussi est votre cœur.
Soyez prêts à agir en ayant votre ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le déclare, en vérité, il attachera sa ceinture, les fera asseoir pour le repas et viendra les servir. S'il revient à minuit ou même plus tard encore, et qu'il les trouve éveillés, heureux sont-ils. Comprenez bien ceci. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. Tenez-vous prêts, vous aussi, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Pierre dit alors, « « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous seulement ou bien pour tout le monde ?» Le Seigneur répondit, « Quel est donc le serviteur fidèle et intelligent ? C'est celui à qui son maître confiera la charge de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour chez lui, trouvera occupé à ce travail. Je vous le déclare, en vérité, le maître confiera à ce serviteur la charge de tous ses biens. Mais si ce serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à revenir », s'il se met alors à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit et s'enivre, alors le maître reviendra un jour où le serviteur ne l'attend pas et à une heure qu'il ne connaît pas. Il punira le serviteur d'une façon terrible et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui sait ce que veut son maître, mais ne se tient pas prêt et ne fait pas ce que veut son maître, sera puni de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et commet des actes pour lesquels il mérite d'être battu, sera puni d'un petit nombre de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore plus. Je suis venu jeter le feu sur la terre, et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et combien je suis dans l'angoisse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix au monde ? Non, vous dis-je, mais la division. Dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Jésus disait aussi à la foule, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, « Il va pleuvoir. » Et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, « Il va faire chaud. » Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel. Alors, pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent? Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même de la juste façon d'agir? Si quelqu'un porte une accusation contre toi et que vous allez ensemble devant le tribunal, efforce-toi de trouver un arrangement avec lui pendant que vous êtes en chemin, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à la police et que la police ne te jette en prison. Tu ne sortiras pas de là, je te l'affirme, tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. »
Chapitre 13.
En ce temps-là, quelques personnes vinrent parler à Jésus des Galiléens que Pilate avait fait tuer au moment où ils offraient des sacrifices à Dieu. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que si ces Galiléens ont été ainsi massacrés, cela signifie qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. Et ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne changez pas de vie, vous mourrez tous comme eux. » Puis Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, « Regarde, depuis 3 ans je viens chercher des figues sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il du terrain inutilement ?» Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le cette année encore. Je vais creuser la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Ainsi, il donnera peut-être des figues l'année prochaine. Sinon, tu le feras couper. » Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Une femme malade se trouvait là depuis 18 ans. Elle avait en elle un esprit mauvais qui la tenait courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta maladie. » Il posa les mains sur elle et aussitôt elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue était indigné de ce que Jésus avait accompli une guérison le jour du sabbat. Il prit alors la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces mots, « Hypocrite que vous êtes. Le jour du sabbat, chacun de vous détache de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, n'est-ce pas ? Et cette femme, descendante d'Abraham, que Satan a tenue liée pendant 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de ses liens le jour du sabbat ?
Cette réponse de Jésus remplit de honte tous ses adversaires. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les œuvres magnifiques qu'il accomplissait.
Jésus dit, « À quoi le royaume de Dieu ressemble-t-il ? À quoi puis-je le comparer ?
Il ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a mise en terre dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux ont fait leur nid dans ses branches. »
Il dit encore, « À quoi puis-je comparer le royaume de Dieu ? »
Il ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à 25 kilos de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée.
Jésus traversait villes et villages et enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui demanda, « Maître, n'y a-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?»
Jésus leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'affirme, beaucoup essaieront d'entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte à clé, vous vous trouverez dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte et à dire, « Maître, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous allez lui dire, « Nous avons mangé et bu avec toi, tu as enseigné dans les rues de notre ville. » Il vous dira de nouveau, « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. » C'est là que vous pleurerez et grincerez des dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Des hommes viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Et alors, certains de ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers, et d'autres qui sont maintenant les premiers seront les derniers. »
À ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pars d'ici, va-t'en ailleurs, car Hérode veut te faire mourir. » Jésus leur répondit, « Allez dire à cette espèce de renard, je chasse des esprits mauvais et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'achève mon œuvre. Mais il faut que je continue ma route, aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète soit mis à mort ailleurs qu'à Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui mets à mort les prophètes et tues à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie, combien de fois ai-je voulu rassembler ta population auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison va être complètement abandonnée. Je vous le déclare. Vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz « Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. »
Chapitre 14.
Un jour de sabbat, Jésus se rendit chez un des chefs des pharisiens pour y prendre un repas. Ceux qui étaient là observaient attentivement Jésus. Un homme qu'une maladie faisait enfler se tenait devant lui. Jésus prit la parole et demanda au maître de la loi et aux pharisiens, « Notre loi permet-elle ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Mais ils ne voulurent pas répondre. Jésus prit alors le malade, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Si l'un de vous a un fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en retirer aussitôt, même le jour du sabbat ?» Ils furent incapables de lui répondre à ce sujet. Jésus remarqua comment les invités choisissaient les meilleures places. Il dit alors à tous cette parabole, « Lorsque quelqu'un t'invite à un repas de mariage, ne va pas t'asseoir à la meilleure place. Il se pourrait en effet qu'un personnage plus important que toi ait été invité, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre vienne et te dise, « Laisse-lui cette place. » Tu devrais alors, tout honteux, aller t'asseoir à la dernière place. Au contraire, lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, pour qu'au moment où viendra celui qui t'a invité, il te dise, « Mon ami, viens plus haut, à une meilleure place. » Ainsi, ce sera pour toi un honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Puis Jésus dit à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni les membres de ta parenté, ni tes riches voisins, car ils pourraient t'inviter à leur tour et tu serais ainsi payé pour ce que tu as donné. Mais quand tu offres un repas de fête, invite les pauvres, les infirmes, les boiteux et les aveugles. tu seras heureux, car ils ne peuvent te le rendre. Dieu te le rendra lorsque ceux qui ont fait le bien seront ramenés à la vie. Après avoir entendu ces mots, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit, « Un homme offrit un grand repas auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est prêt maintenant. » Mais tous, l'un après l'autre, se mirent à s'excuser. Le premier dit au serviteur, « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Je te prie de m'excuser. » Un autre lui dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Je te prie de m'excuser. » Un autre encore, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rapporta ses réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. » Après un moment, le serviteur vint dire, « Maître, tes ordres ont été exécutés, mais il y a encore de la place. » Le maître dit alors à son serviteur, « Va sur les chemins de campagne, le long des haies, et oblige les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie. » Je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne mangera de mon repas. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Celui qui vient à moi ne peut pas être mon disciple s'il ne hait pas, en quelque sorte, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord et calcule combien cela coûtera, afin de voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations et ne peut ensuite achever la tour, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé de construire, mais a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi pendant qu'il est encore loin pour lui demander ses conditions de paix. « Ainsi donc, » ajouta Jésus. Aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Le sel est une bonne chose, mais s'il perd son goût, comment pourrait-on le lui rendre? Il n'est alors bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Écoutez bien, si vous avez des oreilles pour entendre.
Chapitre 15.
Les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi s'indignaient entre eux et disaient « Cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. » Jésus leur dit alors cette parabole. « Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans leur pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve ? Et quand il l'a retrouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, il rentre chez lui, puis appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se détourne de ses péchés que pour 99 personnes respectables qui n'ont pas besoin de changer de vie. Ou bien, si une femme possède 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se détourne de ses péchés. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. » Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea la fortune entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné.
Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi sa fortune. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en peuvent manger, tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il partit pour retourner chez son père. Comme il était encore assez loin de la maison, son père le vit et en eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils lui dit alors, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la lui. Passez-lui une bague au doigt et des chaussures aux pieds. « Amenez le veau que nous avons engraissé, et tuez-le. Faisons un joyeux repas, car mon fils que voici était comme mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Et une joyeuse fête commença. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. Lorsqu'il revint et fut près de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que cela signifiait. Le serviteur lui répondit, « Ton frère est revenu, et ton père a fait tuer le veau que nous avons engraissé parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. Son père sortit pour l'inviter à entrer. Mais le fils répondit à son père, « Écoute, il y a de nombreuses années que je te sers, et je n'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même un chevreau pour que je fasse un joyeux repas avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui tu fais tuer le veau que nous avons engraissé. » Le père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une joyeuse fête et être heureux, car ton frère que voici était comme mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. »
Chapitre 16.
Jésus dit à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant, et l'on vint lui dire que ce gérant gaspillait ses biens. Le maître l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Rends-moi compte de la façon dont tu as exercé ta charge, car tu ne pourras plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Mon maître va me retirer ma charge. Que faire? Je ne suis pas assez fort pour travailler la terre, et j'aurai honte de mendier. Ah, je sais ce que je vais faire. Et quand j'aurai perdu ma place, des gens me recevront chez eux. » Il fit alors venir un à un tous ceux qui devaient quelque chose à son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 100 tonneaux d'huile d'olive, lui répondit-il. » Le gérant lui dit, « Voici ton compte, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 500 sacs de blé, répondit-il. Le gérant lui dit, « Voici ton compte, écris 400. » Le maître de ce gérant malhonnête le loua d'avoir agi si habilement, car les gens de ce monde sont bien plus habiles en affaires les uns avec les autres que ceux qui appartiennent à la lumière. Jésus ajouta, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses de ce monde, afin qu'au moment où elles viendront à vous manquer, on vous reçoive dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans les petites choses est aussi fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans votre façon d'utiliser les richesses de ce monde, qui pourrait vous confier les vraies richesses ? Et si vous n'avez pas été fidèle en ce qui concerne le bien qui est à quelqu'un d'autre, qui vous donnera le bien qui est à vous ? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Il haïra l'un et aimera l'autre, il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois
Dieu et l'argent. »
Les pharisiens entendaient toutes ces paroles et se moquaient de Jésus car ils aimaient l'argent. Jésus leur dit, « Vous êtes ceux qui se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce que les hommes considèrent comme grand est sans valeur aux yeux de Dieu. » Le temps de la loi de Moïse et des livres des prophètes a duré jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. Depuis cette époque, la bonne nouvelle du royaume de Dieu est annoncée, et chacun use de force pour entrer dans le royaume. Mais le ciel et la terre peuvent disparaître plus facilement que le plus petit détail de la loi. Tout homme qui renvoie sa femme et se marie avec une autre commet un adultère. Et celui qui se marie avec une femme renvoyée par son mari commet un adultère. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Un homme pauvre, appelé Lazare, couvert de plaies, se tenait couché devant la porte de la maison du riche. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, même les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent à côté d'Abraham dans le ciel. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Le riche souffrait beaucoup dans le lieu où sont les morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans de l'eau et rafraîchisse ma langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre nous et vous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir vers nous de là où tu es. Je te prie donc, Père, dit le riche, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères. Qu'il aille les avertir, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham répondit, tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qu'il les écoute. Cela ne suffit pas, père Abraham, lui dit le riche. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. Mais Abraham lui dit, s'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si l'un des morts revenait à la vie.
Chapitre 17.
Jésus dit à ses disciples, il y aura toujours des faits qui entraînent les hommes à pécher, mais malheur à celui qui en est la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer, que s'il faisait tomber dans le péché un seul de ses petits. Prenez bien garde. Si ton frère pêche, parle-lui sérieusement. Et s'il change de comportement, pardonne-lui. S'il pêche contre toi 7 fois en un jour et que chaque fois il revienne te dire « je le regrette », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, répondit le Seigneur, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Supposons ceci. L'un d'entre vous a un serviteur qui laboure ou qui garde les troupeaux. Lorsqu'il le voit revenir des champs, va-t-il lui dire, « Viens vite te mettre à table. » Non. Il lui dira plutôt, « prépare mon repas, puis change d'habit pour me servir pendant que je mange et que je bois. Après quoi, tu pourras manger et boire à ton tour. » Il n'a pas à remercier son serviteur d'avoir fait ce qui lui était ordonné, n'est-ce pas? Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa entre la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était samaritain. Jésus dit alors, « Tous les 10 ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont les 9 autres?
Personne n'a-t-il pensé à revenir pour remercier Dieu, à part cet étranger ?
Puis Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir. On ne dira pas, « Voyez, il est ici », ou bien, « Il est là ». Car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples, « Le temps viendra où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira, « Regardez là » ou « Regardez ici ». Mais n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, du feu et du soufre se mirent à pleuvoir du ciel et les firent tous périr. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. En ce jour-là, celui qui sera sur le toit de sa maison ne devra pas descendre à l'intérieur pour prendre ses affaires qui s'y trouvent. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Je vous le déclare, en cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit. L'une sera emmenée et l'autre laissée. Deux femmes moudront du grain ensemble, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Les disciples lui demandèrent, « Où cela se passera-t-il, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le cadavre ? Là aussi se rassembleront les vautours. »
Chapitre 18.
Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, » disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne le voulut pas, puis il se dit, « Bien sûr, je ne crains pas Dieu, et je ne respecte personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon elle continuera à venir et finira par mettre ma patience à bout. » Puis le Seigneur ajouta, « Écoutez ce que dit ce mauvais juge. Et Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'il crie à lui jour et nuit ? Tardera-t-il à les aider ? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus dit la parabole suivante à l'intention de certains qui se croyaient justes devant Dieu et méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait à part et priait ainsi, « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je pratique le jeûne 2 jours par semaine et je te donne la 10e partie de tout ce que je gagne. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine et disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » « Je vous le dis, » ajouta Jésus, « cet homme était en règle avec Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Des gens amenèrent à Jésus même des bébés pour qu'il les touche. Les disciples les virent et leur firent des reproches. Mais Jésus fit approcher les enfants et dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, en vérité, celui qui n'accepte pas le royaume de Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. »
un chef juif demanda à Jésus « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui dit Jésus. « Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » « Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue pas, ne vole pas, ne dis pas de mensonge contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. » L'homme répondit, « J'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as et distribue l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Mais quand l'homme entendit ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus vit qu'il était triste et dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais il est encore plus difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, mais alors, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, répondit Jésus. Pierre dit alors, écoute, nous avons quitté ce que nous avions pour te suivre. Je vous le déclare, leur dit Jésus. En vérité, si quelqu'un quitte sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, pour le royaume de Dieu, il recevra beaucoup plus dans le temps présent, et il recevra la vie éternelle dans le temps qui viendra ensuite. Jésus prit les 12 disciples avec lui et leur dit, « Écoutez, nous allons à Jérusalem où s'accomplira tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme. » On le livrera aux païens qui se moqueront de lui, l'insulteront et cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et le troisième jour, il reviendra à la vie. Mais les disciples ne comprirent rien à cela. Le sens de ses paroles leur était caché et ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui apprit que Jésus de Nazareth passait par là. Alors il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches et lui disaient de se taire. Mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand l'aveugle se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Maître, fais que je voie de nouveau, » répondit-il. Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a guéri. » Aussitôt il put voir, et il suivait Jésus en louant Dieu. Toute la foule vit cela et se mit aussi à louer Dieu.
Chapitre 19.
Jésus, après être entré dans Jéricho, traversait la ville. Il y avait là un chef des collecteurs d'impôts appelé Zachée, qui était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait le voir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Tous ceux qui virent cela s'indignaient et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée se leva et dit au Seigneur, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un en le trompant, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient d'entendre ces paroles. Comme il était près de Jérusalem, on pensait en effet que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de noble famille se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela ses 10 serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or et leur dit, « Faites du commerce avec cet argent jusqu'à ce que je revienne. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent des messagers à sa suite pour dire, « Nous ne voulons pas avoir cet homme comme roi. » Il fut nommé roi et revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Le premier se présenta et dit, « « Maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » « C'est bien, bon serviteur, lui dit le roi. Puisque tu as été fidèle dans de petites choses, je te nomme gouverneur de 10 villes. » Le deuxième serviteur vint et dit, « Maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi dit à celui-là, « Toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. » Un autre serviteur vint et dit, « Maître, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée cachée dans un mouchoir. J'avais peur de toi, car tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui dit, « Mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme dur, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? À mon retour, j'aurais pu le retirer avec l'intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Enlevez-lui 7 pièces d'or et donnez-la à celui qui a 10 pièces. » Ils lui dirent, « Maître, il a déjà 10 pièces. » « Je vous le dis, répliqua-t-il, à celui qui a, on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu m'avoir comme roi, amenez-les ici et tuez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit devant eux pour se rendre à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de la colline appelée Mont des Oliviers, il envoya en avant 2 disciples. « Allez au village qui est en face, leur dit-il. Quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le ici. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » dites-lui « Le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'anon, ses propriétaires leur dirent, « Pourquoi détachez-vous cet anon ?»« Le Seigneur en a besoin, » répondirent-ils. Puis ils amenèrent l'anon à Jésus. Ils jetèrent leur manteau sur l'animal et y firent monter Jésus. Tandis qu'il avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Comme il approchait de Jérusalem par le chemin qui descend du Mont des Oliviers, toute la foule des disciples, pleine de joie, se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « Que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur, » disait-il, « paix dans le ciel et gloire à Dieu. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, ordonne à tes disciples de se taire. » « Je vous le déclare, » répondit Jésus, « s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand Jésus fut près de la ville et qu'il la vit, il pleura sur elle en disant, « Si seulement tu comprenais toi aussi, en ce jour, ce qui peut te donner la paix. Mais maintenant cela t'est caché, tu ne peux pas le voir. Car des jours vont venir pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'assiégeront et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et ta population. Ils ne te laisseront pas une seule pierre posée sur une autre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où Dieu est venu te secourir. » Jésus entra dans le temple et se mit à en chasser les marchands en leur disant, « Les Écritures déclarent, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Jésus enseignait tous les jours dans le temple. Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les personnages importants du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment y parvenir, car tout le peuple l'écoutait avec une grande attention.
Chapitre 20.
Un jour, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi survinrent avec les anciens et lui demandèrent, « Dis-nous de quel droit tu fais ces choses? Qui t'a donné le droit de les faire? » « Je vais vous poser une question, moi aussi, » leur répondit Jésus. « Dites-moi, qui a envoyé Jean baptisé, Dieu ou les hommes ?» Mais ils se mirent à discuter entre eux et se dirent, « Si nous répondons, c'est Dieu qui l'a envoyé, il nous demandera, « Pourquoi n'avez-vous pas cru Jean ?» Mais si nous disons, ce sont les hommes qui l'ont envoyé, le peuple tout entier nous jettera des pierres pour nous tuer, car il est persuadé que Jean a été un prophète. » Ils répondirent alors, « Nous ne savons pas qui l'a envoyé baptiser. » Et Jésus leur dit, « Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit je fais ces choses. »
Ensuite, Jésus se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua à des ouvriers vignerons, et partit en voyage pour longtemps. Quand vint le moment de la récolte du raisin, il envoya un serviteur vers les ouvriers vignerons pour recevoir d'eux sa part de la récolte. Mais les vignerons battirent le serviteur et le renvoyèrent sans rien lui donner. Le propriétaire envoya encore un autre serviteur, mais les vignerons le battirent aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent sans rien lui donner. Il envoya encore un troisième serviteur. Celui-là, ils le blessèrent aussi et le jetèrent dehors. Le propriétaire de la vigne dit alors, « Que faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils auront probablement du respect pour lui. » Mais quand les vignerons le virent, ils se dirent les uns aux autres, « Voilà celui qui deviendra propriétaire plus tard. Tuons-le, pour que la vigne soit à nous. » Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Que leur fera donc le propriétaire de la vigne ? » demanda Jésus. « Il viendra, il tuera ses vignerons et remettra la vigne à d'autres hommes. » Quand les gens entendirent ces mots, ils dirent, « Cela n'arrivera certainement pas. » Mais Jésus les regarda et demanda, « Que signifie cette parole de l'Écriture ? C'est la pierre que les bâtisseurs avaient rejetée qui est devenue la pierre principale. » Et il ajouta, « Tout homme qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et si la pierre tombe sur quelqu'un, elle le réduira en poussière. » Les maîtres de la loi et les chefs des prêtres essayèrent d'arrêter Jésus à ce moment même, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux. Mais ils eurent peur du peuple. Ils se mirent alors à surveiller Jésus et lui envoyèrent des espions. Ceux-ci faisaient semblant d'être des hommes honorables pour prendre Jésus au piège par une question. Ils voulaient fournir ainsi une occasion de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que ce que tu dis et enseignes est juste. Tu ne fais pas attention à l'importance que semble avoir un homme, mais tu enseignes la vérité sur la manière de vivre que Dieu demande. Dis-nous donc, notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ?» Mais Jésus se rendit compte de leur ruse et leur dit, « Montrez-moi une pièce d'argent. À qui appartiennent le visage et le nom gravés sur cette pièce ?»« À l'empereur, » répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, « Eh bien, payez à l'empereur ce qui lui appartient, et payez à Dieu ce qui lui appartient. » Ils ne purent le prendre en faute pour ce qu'il disait devant le peuple. Au contraire, sa réponse les remplit d'étonnement, et ils gardèrent le silence. Quelques sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment que les morts ne ressusciteront pas. Ils l'interrogèrent de la façon suivante. « Maître, Moïse nous a donné ce commandement écrit. Si un homme qui a un frère meurt et laisse une femme sans enfant, il faut que son frère épouse la veuve et qu'il ait des enfants avec elle pour son frère mort. Or, il y avait une fois sept frères. Le premier se maria et mourut sans laisser d'enfants. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième. Il en fut de même pour tous les sept qui moururent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme mourut aussi. Au jour où les morts ressusciteront, de qui sera-t-elle donc la femme, car tous les sept l'ont eue comme épouse ?» Jésus leur répondit, « Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de ressusciter d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir, ils sont pareils aux anges. Ils sont fils de Dieu, car ils sont ressuscités. » Moïse indique clairement que les morts ressusciteront. Dans le passage qui parle du buisson d'épines, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu est le Dieu d'hommes vivants, et non de morts, car tous sont vivants pour lui. Quelques maîtres de la loi prirent alors la parole. « Tu as bien parlé, maître, » dirent-ils, car ils n'osaient plus lui poser d'autres questions. Jésus leur dit, « Comment peut-on affirmer que le Messie est descendant de David ? Car David déclare lui-même dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. »
David l'appelle donc Seigneur. Comment le Messie peut-il être aussi le descendant de David? Comme toute la foule l'écoutait, Jésus dit à ses disciples, « Gardez-vous des maîtres de la loi qui se plaisent à se promener en longue robe et qui aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques. Ils choisissent les sièges les plus en vue dans les synagogues et les meilleures places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles possèdent et en même temps font de longues prières pour paraître bons. Ils recevront une punition d'autant plus grande. »
Chapitre 21.
Jésus regarda autour de lui et vit des riches qui déposaient leurs dons dans les troncs à offrande du temple. Il vit aussi une veuve pauvre qui y mettait deux petites pièces de cuivre. Il dit alors, « Je vous le déclare, en vérité, cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres, car tous les autres ont donné comme offrande de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Alors Jésus déclara, « Les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre de ce que vous voyez là. Tout sera renversé. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver ?»« Faites attention, leur dit Jésus. Ne vous laissez pas tromper. Car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, « Je suis le Messie. » Ou encore, « Le temps est arrivé. » Mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin du monde. » Puis il ajouta, « Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre, et dans différentes régions des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et de grands signes venant du ciel. Mais avant tout cela, on vous arrêtera. On vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues, et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des dirigeants à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Prenez donc la décision de ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez, car je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ni vous contredire. Vous serez livrés même par vos pères et mères, vos frères, vos parents et vos amis. On mettra à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors, ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Car ce seront des jours de châtiment, afin que se réalise tout ce que déclarent les Écritures. Quel malheur ce sera en ces jours-là, pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront. Car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations, et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, rendues inquiètes par le bruit violent de la mer et des vagues. Des hommes mourront de frayeur en pensant à ce qui devra survenir sur toute la terre, car les puissances des cieux trembleront. Alors, on verra le Fils de l'homme arriver sur un nuage avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance sera proche. Puis Jésus leur dit cette parabole : Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, en vérité, les gens actuellement vivants ne seront pas tous morts avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon ce jour-là vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas. Priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Mais le soir, il s'en allait pour passer la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Et tout le peuple venait au temple tôt le matin pour l'écouter.
Chapitre 22.
La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen de mettre à mort Jésus, car ils avaient peur du peuple. Alors Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des 12 disciples. Judas alla parler avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes du temple de la façon dont ils pourraient leur livrer Jésus. Ils en furent très contents et promirent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus sans que la foule le sache. Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoya alors Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Ils lui demandèrent « Où veux-tu que nous le préparions ?»« Écoutez, leur dit-il, au moment où vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison « Le maître te demande où est la chambre où je mangerai avec mes disciples le repas de la Pâque. » Et il vous montrera en haut de la maison une grande chambre avec les meubles nécessaires. C'est là que vous préparerez le repas. » Ils s'en allèrent, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jamais jusqu'à ce que son sens lui soit pleinement donné dans le royaume de Dieu. » Il prit alors une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, confirmée par mon sang qui est versé pour vous. Mais regardez, celui qui me trahit est ici, à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme va mourir comme Dieu l'a décidé, mais quel malheur pour l'homme qui le trahit. » Ils se mirent alors à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Les disciples se mirent à discuter vivement
pour savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations les commandent, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Mais il n'en va pas ainsi pour vous. Au contraire, le plus grand parmi vous doit être comme le plus jeune, et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Celui qui est à table, n'est-ce pas? Eh bien, moi je suis parmi vous comme celui qui sert. Vous êtes demeurés continuellement avec moi dans mes épreuves. Et de même que le Père a disposé du royaume en ma faveur, de même j'en dispose pour vous. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer comme on secoue le grain pour le séparer de la paille. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. Jésus lui répondit, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu aies affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. Puis Jésus leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? « De rien, répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Mais maintenant, celui qui a une bourse doit la prendre, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée doit vendre son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en ma personne cette parole de l'Écriture, il a été compté parmi les malfaiteurs. En effet, ce qui a été écrit à mon sujet va s'accomplir. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, voici 2 épées. »« Cela suffit, répondit-il. » Jésus sortit et se rendit, selon son habitude, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, se mit à genoux et pria en ces mots, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange du ciel lui apparut pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec encore plus d'ardeur. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, revint vers les disciples et les trouva endormis de tristesse. « Pourquoi dormez-vous ? » leur dit-il. « Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il parlait encore, quand une foule apparut. Judas, l'un des 12 disciples, la conduisait. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit, « Judas, est-ce en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme ?» Quand les compagnons de Jésus virent ce qui allait arriver, ils lui demandèrent, « Seigneur, devons-nous frapper avec nos épées ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Laissez, cela suffit. » Il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Puis Jésus dit au chef des prêtres, au chef des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus le prendre, « Deviez-vous venir avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un brigand ? Tous les jours j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure est à vous, et à la puissance de l'obscurité. » Ils saisirent Jésus, l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin.
on avait fait du feu au milieu de la cour, et Pierre prit place parmi ceux qui étaient assis autour. Une servante le vit assis près du feu. Elle le fixa du regard et dit, « Cet homme aussi était avec lui. » Mais Pierre le nia, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, quelqu'un d'autre le vit et dit, « Toi aussi, tu es l'un d'eux. » Mais Pierre répondit à cet homme, « Non, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre encore affirma avec force, « Certainement, cet homme était avec lui, car il est de Galilée. » Mais Pierre répondit, « Je ne sais ce que tu veux dire, toi. » À ce moment même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda fixement Pierre. Alors Pierre se souvint de ce que le Seigneur lui avait dit, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu auras affirmé 3 fois que tu ne me connais pas. » Pierre sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui couvraient le visage et lui demandaient, « Qui t'a frappé ? Devine !» Et ils lui adressaient beaucoup d'autres paroles insultantes. Quand il fit jour, les anciens du peuple juif, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi s'assemblèrent. Ils firent amener Jésus devant leur conseil supérieur et lui demandèrent, « Es-tu le Messie ? Dis-le-nous. » Il leur répliqua, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous pose une question, vous ne me répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à droite du Dieu puissant. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » « Vous le dites, je le suis. » Alors ils déclarèrent, « Nous n'avons plus besoin de témoins. Nous avons nous-mêmes entendu ses propres paroles. »
Chapitre 23.
L'assemblée entière se leva, et ils amenèrent Jésus devant Pilate. Là, ils se mirent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé cet homme en train d'égarer notre peuple. » Il leur dit de ne pas payer les impôts à l'empereur, et prétend qu'il est lui-même Christ, un roi. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répliqua, « Tu le dis. » Pilate s'adressa alors au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » Mais ils déclarèrent avec encore plus de force, Il pousse le peuple à la révolte par son enseignement. Il a commencé en Galilée, a passé par toute la Judée, et maintenant il est venu jusqu'ici. Quand Pilate entendit ces mots, il demanda, « Cet homme est-il de Galilée ?» Et lorsqu'il eut appris que Jésus venait de la région gouvernée par Hérode, il l'envoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem ces jours-là. Hérode fut très heureux de voir Jésus, car il avait entendu parler de lui et désirait le rencontrer depuis longtemps. Il espérait le voir faire un miracle. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi étaient là et portaient de violentes accusations contre Jésus. Hérode et ses soldats se moquèrent de lui et le traitèrent avec mépris. Ils lui mirent un vêtement magnifique et le renvoyèrent à Pilate. Le même jour, Hérode et Pilate devinrent amis. En effet, auparavant, ils étaient ennemis. Pilate réunit les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en me disant qu'il égare le peuple. Eh bien, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des mauvaises actions dont vous l'accusez. Hérode ne l'a pas non plus trouvé coupable, car il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a commis aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir. Je vais donc le faire battre à coups de fouet, puis je le relâcherai. À chaque fête de Pâques,
Pilate devait leur libérer un prisonnier. Mais ils se mirent à crier tous ensemble, « Fais mourir cet homme, relâche-nous Barabbas !» Barabbas avait été mis en prison pour une révolte qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Comme Pilate désirait libérer Jésus, il adressa de nouveau la parole à la foule. Mais il lui criait, « Cloue-le sur une croix ! Cloue-le sur une croix !» Pilate prit la parole une troisième fois et leur dit, « Quelle mauvaise action a-t-il commise ? Je n'ai trouvé en lui aucune faute pour laquelle il mériterait de mourir. Je vais donc le faire battre à coups de fouet, puis je le relâcherai. » Mais il continuait à réclamer à grands cris que Jésus soit cloué sur une croix. Et leurs cris l'emportèrent. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il libéra l'homme qu'il réclamait, celui qui avait été mis en prison pour révolte et pour meurtre, et leur livra Jésus pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient. Comme ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, qui revenait des champs. Ils se saisirent de lui et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivaient, ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna vers elles et dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Car les jours vont venir où l'on dira, « Heureuses celles qui ne peuvent avoir d'enfants, qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité. » Alors les gens se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. » Car, ajouta Jésus, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On emmenait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, ils clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là, et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui, « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui étaient écrits ces mots, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait. « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, cette punition est juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes. Mais lui n'a rien fait de mal. » Puis il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit, « Je te le déclare, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. L'officier romain vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit, « Certainement, cet homme était bon. » Tous ceux qui étaient venus en foule, assister à ce spectacle, virent ce qui était arrivé. Alors ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance pour regarder ce qui se passait. Il y avait un homme appelé Joseph, de la ville juive d'Arimathée. Cet homme était bon et juste, et il espérait la venue du royaume de Dieu. Il était membre du conseil supérieur, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. Il se rendit chez Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans le roc, un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. C'était vendredi, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis elles retournèrent chez elles et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme la loi l'ordonnait.
Chapitre 24.
Très tôt, le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée loin de l'entrée du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser lorsque deux hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des hommes pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 disciples et à tous les autres. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais eux pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde et ils ne les crurent pas. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. « De quoi discutez-vous en marchant ?» leur demanda Jésus. Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui s'y sont passés ces jours-ci » « Quels événements ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt le matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi, et qu'il entre dans sa gloire ? » Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans toutes les Écritures, en commençant par les livres de Moïse, et en continuant par les livres de tous les prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin. Mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent, réunis avec leurs compagnons, les 11 disciples qui disaient, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Ils parlaient encore, quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Ils furent saisis de crainte et de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Car un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils ne pouvaient pas encore croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit, « Voilà ce que je vous ai déclaré quand j'étais encore avec vous. Tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, devait se réaliser. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, « Voici ce qui est écrit. Le Messie doit souffrir, puis ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Et il faut que l'on prêche en son nom devant toutes les nations, en commençant par Jérusalem, pour appeler les hommes à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de cela. Et j'enverrai moi-même sur vous le don que mon Père a promis. Mais vous devez rester dans la ville, jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. » Puis Jésus les emmena hors de la ville, jusque vers Béthanie, et là il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils l'adorèrent et retournèrent à Jérusalem, pleins d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu.